J'aimerais vous parler ce soir de quatre balustrades de sécurité pour le chrétien. Parce qu'il y a une chose importante et intéressante de savoir et de toujours se souvenir, c'est que parmi les plus belles promesses que Dieu nous donne, eh bien, il y a celle de sa protection. Est-ce que vous vous réjouissez de la protection de Dieu sur votre vie? Et je suis certain que plusieurs pourraient raconter de quelle manière ils ont été protégés d'un accident ou d'un événement fâcheux dans leur vie. Et nous sommes tous au bénéfice du ministère des anges qui viennent protéger leurs enfants. Quelquefois, nous sommes aussi pris dedans et nous avons part à des coups durs, à des accidents ou des choses comme cela. Mais cela n'empêche, quelqu'un disait, est-ce que ton ange gardien était en vacances quand tu t'es cassé le pied? Et puis, il a répondu, bien, imagine ce qui aurait pu arriver si l'ange n'était pas là. Je me suis que cassé le pied et ça aurait bien été plus grave que cela si Dieu n'avait pas. Alors, ne nous fâchons pas quand les choses ne se passent pas. Nous ne sommes pas toujours dans une protection absolue. Nous ne sommes pas dans un univers aseptisé où rien ne se passe. Nous sommes dans le monde, nous sommes dans des combats, nous sommes dans des sphères dangereuses. Ce matin, une sœur nous témoignait qu'elle était ce jour des attentats à Bruxelles, à l'aéroport de Bruxelles. Vous avez tous entendu parler de ça, je pense. Eh bien, elle était dans l'aéroport ce matin-là. Elle devait prendre un avion à 8 heures et elle était à l'embarquement. Elle était en train de s'avancer vers l'escalator qui devait l'amener dans le hall des départs, lorsque la route est barrée soudainement par des agents de sécurité et que plus personne ne pouvait avancer. Les explosions ont eu lieu à ce moment-là. Et elle racontait à quel point c'était traumatisant rien que de vivre dans cet environnement des attentats. Sa vie n'a pas été mise en danger, mais elle me disait « je suis une rescapée ». Si j'avais été 5 minutes plus tôt, j'aurais été dans ce hall où l'explosion avait eu lieu. Donc, voilà, nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu et j'aime le dire, chaque jour que nous vivons est un jour de grâce. Chaque jour, que vous soyez jeune ou vieux, chaque jour est un jour de grâce. Quelque part, la vie peut nous être enlevée et ce n'est pas parce que nous sommes des gens mauvais ou bons. Il y a aussi des gens extraordinaires qui ont une vie abrégée et on ne comprend pas pourquoi. Mais ça n'enlève rien à la fidélité de Dieu, à sa bonté pour nous, à son projet pour nous, à son plan pour nous. Rien ne peut toucher à ce que Dieu a déterminé pour nous. Rien ne peut toucher ni faire changer les choses que Dieu a écrites d'avance dans son livre pour chacun de nous. Rien n'est hasard et l'adversaire peut s'acharner tant qu'il veut. Il peut nous faire souffrir, mais Dieu restera toujours Dieu. Il est au-dessus de toute chose et aucune manœuvre de l'adversaire ne peut faire changer quoi que ce soit dans son plan par rapport à nous. Dieu nous promet sa protection. C'est une des plus grandes et des plus belles promesses que nous recevons. Je crois que j'ai marqué quelques promesses. Par exemple, celle-ci. « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. » Ou encore Ésaïe 25 nous dit « Tu as été un refuge pour le faible. » Un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri de la tempête contre la tempête et un ombrage contre la chaleur. Ou encore le psaume 91 qui le dit encore avec des termes plus amples et plus étendus encore, le psaume 91 qui est le psaume du refuge. Le psaume du refuge nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » C'est lui qui te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes et sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne sais pas si vous avez fait le compte, mais il est question d'abri. Il est question de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Il est notre refuge, notre forteresse. Il nous couvre de ses plumes. Il est notre bouclier, notre cuirasse. Eh bien, il y a de quoi adorer Dieu, de quoi louer Dieu face à une telle panoplie de protection mise à notre disposition. Nous sommes en sécurité dans la présence de Dieu. Nous sommes en sécurité à l'ombre de ses ailes. Nous sommes proches de lui. Nous sommes toujours en sécurité. Maintenant, cette protection de Dieu nous est assurée. D'un autre côté, nous avons besoin de nous protéger nous-mêmes. pouvons pas simplement vivre et dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, Dieu me protégera toujours. Voilà, les promesses, elles sont bien écrites là. Les promesses sont là. Donc Dieu est obligé de me protéger en tout temps et de toutes choses. Non, ce n'est pas considérer la Bible dans son ensemble, car la parole de Dieu a des choses à nous dire que nous avons à nous protéger, à nous garder nous-mêmes. Et c'est les choses dont je vais vous parler ce soir. Car lorsque je grandis dans ma vie de disciple, lorsque je m'engage pour Dieu, je vois tout à coup que la réaction, l'opposition et des forces adversaires, des forces contraires se lèvent également. Avez-vous remarqué cela? Vous vous levez pour Dieu, il y a des forces contraires qui se lèvent. Vous marchez dans l'obéissance et il y a une résistance. Vous étiez tranquille, vous faisiez rien, vous ne témoignez pas, vous vous engagez dans rien, vous avez moins de problèmes. Tandis que lorsque vous vous levez pour être quelqu'un qui s'engage dans l'œuvre de Dieu, quelqu'un qui prend ses armes, quelqu'un qui s'engage dans la prière, et vous trouverez toutes sortes de réactions contraires qui vont se lever. Et j'aimerais que ce soir, je m'adresse à une église qui va grandir en maturité et qui va comprendre que ce n'est pas une fatalité, mais que c'est juste l'expression d'un combat dans lequel Dieu est avec nous, Dieu nous protège, mais que nous avons à faire quelque chose, nous avons à réagir. Et je voudrais, peuple de Dieu, que vous puissiez comprendre ce soir qu'il faut être dans une réaction ou dans une activité ou dans une proactivité juste. Il faut agir. Il ne faut pas s'étonner de l'opposition. Il ne faut pas dire, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Parce que la parole de Dieu nous éclaire sur ces choses, que le lion rugissant est à l'œuvre, que le vent contraire existe, que les pièges de l'adversaire sont des réalités, que la fureur de l'adversaire est aussi un facteur duquel il faut tenir compte. Nous ne devons pas être ignorants de ces choses. Malgré la protection de Dieu, eh bien, nous avons à faire face, car nous sommes dans un combat. Mais plus il y a mon engagement, plus il y a ma proximité avec le Seigneur, plus il y a l'action et l'onction du Saint-Esprit, plus l'adversaire doit reculer. Il ne peut pas résister. Il ne peut pas continuellement être contre moi parce que je suis en Christ, eu à l'ombre de ses ailes et sous son bouclier, je suis plus fort et plus que vainqueur contre l'adversaire. Alors, l'appel à la vigilance retentit très souvent dans les Écritures. Veillez donc. Veillez donc, veille, et j'aimerais pas seulement qu'on dise ce soir, oui, c'est marqué veillez, priez, c'est marqué soyez sobre, veillez. On trouve ces mots de vigilance, mais j'aimerais relever quelques versets où il est dit, vous les avez juste sous vos yeux, veille sur toi-même, veille sur ton âme, veille sur toi. Et ces quatre balustrades, j'aimerais comparer notre vie chrétienne à un terrain qui doit être entouré de barrières de protection. Notre cœur, rempli du Seigneur, doit être entouré d'une barrière de protection. Tout comme votre jardin, votre territoire, si vous en avez un, vous le protégez correctement. Et si parfois, dans certains endroits, il n'y a quasi aucune barrière à mettre parce qu'il n'y a jamais de voleur qui viendra sur un terrain vague prendre quelque chose. Mais je peux vous dire que lorsque je vais dans certains pays d'Afrique, les moindres terrains sont bien protégés par ceux qui peuvent le protéger. Ils élèvent des murs bien élevés avec des barbelés autour pour que personne ne vienne faire intrusion ou voler quelque chose sur ce terrain. Lorsque vous êtes sur le terrain de Dieu, lorsque vous êtes sur l'héritage du Seigneur, lorsque l'héritage du Seigneur est en vous, vous devez le protéger. Et j'aimerais qu'on puisse construire ce soir quatre barrières qui vont protéger votre âme, votre cœur, contre l'intrusion, contre le fait de pouvoir nous-mêmes tomber dans le péché, nous-mêmes tomber dans la désobéissance. Et j'aimerais regarder maintenant avec vous ces quatre barrières. Quel est leur nom? Je vais parler ce soir courtement, je vais prendre quelques minutes pour chaque point. La première barrière de sécurité, la première barrière de protection, c'est vivre, garder, préserver le premier amour avec Jésus. L'amour de Dieu en nous, l'amour que j'ai pour Dieu, est une protection. Je vais vous en parler. La deuxième barrière de protection, je vais la mettre à ma gauche, c'est garder une bonne conscience. Et vous allez voir qu'une mauvaise conscience pose problème et nous met véritablement en danger. La troisième barrière de sécurité, je vais la mettre à ma droite, c'est vivre dans l'humilité. Car l'humilité va vous protéger de certaines choses. Et puis, la dernière barrière de protection que je vais mettre derrière moi, c'est ne pas avoir crainte de demander que d'autres prient pour vous. Il ne faut pas se passer de la prière des autres à notre égard. Ce n'est pas mon intercession pour les autres, mais c'est l'intercession des autres pour moi. Nous allons parler courtement de ces quatre barrières de protection pour notre vie. Lisons dans Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 5, où il est dit « À cette merveilleuse église d'Éphèse, le Seigneur Jésus qui aime cette église, elle a été fondée par l'apôtre Paul dans un territoire difficile, dans un territoire occulte. C'est une église qui a progressé dans la maturité, mais après quelques années, lorsque l'Apocalypse a été écrite, eh bien, elle avait déjà quelques décennies d'âge. Et le Seigneur va parler à cette église et nous laisse cette lettre comme un modèle pour tous les temps et toutes les églises en disant qu'il connaît nos œuvres, connaît notre travail, connaît notre persévérance. Il connaît même le fait que nous souffrons pour la vérité et que nous sommes sérieux dans le travail du Seigneur. Et que cette église avait véritablement passé toutes sortes de tempêtes, elle était toujours là. Et le Seigneur est fier de cette église et il dit toutes les bonnes choses. Puis il ajoute à la fin, mais il y a quelque chose qui est extrêmement important. J'aimerais que tu retrouves, et le Seigneur va dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Donc j'aimerais que tu retrouves le premier amour. Le premier amour. Et le Seigneur va dire, c'est tellement important, c'est pas juste un message pour des chrétiens hyper spirituels. Parce que déjà, tout ce qui est fait, tout ce qui est mentionné auparavant, c'est déjà extraordinaire, c'est quand même bien. C'est une bonne église. Mais Jésus dit, non, non, le plus important, c'est le cœur de l'histoire. Et je vous pose la question ce soir, où en est votre cœur vraiment? Votre cœur qui bat, le cœur qui bat, l'amour qui bat, c'est notre qualité de relation avec Jésus. Toutes ces choses, nous pouvons les faire avec un cœur refroidi. Nous pouvons être des chrétiens très sages, très adroits, très soigneux. Nous pouvons faire un tas de choses, un tas d'œuvres. Nous pouvons nous engager dans plein de choses avec un cœur refroidi. Le Seigneur dit, où en est ton cœur? Est-ce que tu as encore ce premier amour? Cet amour qui ne calcule pas, qui se donne, qui va jusqu'au bout. Cet amour qui est le reflet d'un cœur entier et non pas un cœur partagé. Reviens à ce que tu as vécu au départ, où tu étais, je ne vais pas dire tout feu, tout flamme, parce que parfois ça peut être aussi un peu superficiel et un peu émotif. Et tout ça, c'est pas mauvais. Mais c'est ce cœur entier. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, avec un cœur entier. Si tu es rempli de ce premier amour, il n'y a pas de place pour les compromis. Il n'y a pas de place pour autre chose. Et le danger, justement, et la demande du Seigneur de me protéger moi-même, c'est justement de ne pas entrer dans des compromis avec un cœur partagé, d'avoir un amour qui regarde à droite, qui regarde à gauche. Et si j'ai ce premier amour, je n'ai plus besoin de regarder ni à droite ni à gauche parce que j'ai reçu la plénitude. J'ai reçu tout ce qu'il me faut. Jésus me suffit pleinement. Est-ce qu'on peut dire ce soir que Jésus nous suffit pleinement? Oui, parce que le premier amour me maintient dans ce cœur entier parce que je sais que je fais partie de l'épouse. Et l'épouse, dans un mariage, c'est celle qui a fait alliance avec moi. Et son amour est total. Et c'est réciproque. C'est un amour total qui fait que j'ai pas envie et je ne veux pas entrer dans des sphères dangereuses où je partage mon cœur avec quelqu'un d'autre. Une personne était venue me voir au bureau et elle était en rupture avec son mari et elle avait même engagé une instance de séparation. Et dans ce moment de séparation, vous savez que c'est toujours un peu dangereux parce que quand les gens se séparent juste pour se remettre en question, juste pour revoir leur position, juste pour prendre du recul, comme on dit, vous savez, prendre du recul, c'est toujours dangereux. quel que soit le domaine dans lequel vous le faites, ça comporte toujours des risques. Et dans le cas de figure que je vous cite, eh bien cette personne, alors qu'elle était loin de la maison, toujours dans l'idée quand même de renouer, eh bien son cœur s'est ouvert à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre est venu frapper à sa porte. Quelqu'un, vous savez, si vous vous rendez disponible, alors que l'alliance d'amour ne vous l'autorise pas, l'ennemi va vous mettre des propositions devant votre porte. Il va venir avec des propositions. Et donc cette femme avait reçu rapidement une proposition. Et comme elle n'était plus très sûre, séparation, ça va mener au divorce ou ça va ramener à renouer avec mon mari, à remettre les choses à plat, à régler mon problème. Alors son cœur n'était plus tellement sûr, il n'était plus entier, il n'était plus protégé, on va dire. Et le charme est arrivé, la proposition était là, le fruit était beau à voir et agréable à goûter. Et donc elle a ouvert son cœur et elle est tombée amoureuse. Donc elle devait se battre maintenant face à mon exhortation de revenir, de lâcher ça et de revenir. J'avais même pas besoin de parler. Elle avait compris elle-même qu'elle devait arrêter cela. Mais il y avait un combat nouveau parce que son cœur n'était plus entier. Le premier amour n'a pas été protégé. Frères et sœurs, ce que je veux dire par là, protégez votre premier amour. Vivez votre premier amour avec le Seigneur. Vivez-le pleinement et ne soyez pas à cheval entre plusieurs choses tiraillées à droite à gauche. C'est une protection, le premier amour. Parce que mon cœur est rempli, mon cœur est suffisamment plein que je n'ai pas envie d'entrer dans des compromis. Toutes les propositions alléchantes de l'adversaire, je peux dire non parce que j'en ai la force. À partir de cet amour, j'ai de la force pour dire non à ce qui est faux et j'ai de la force pour dire oui à la volonté de Dieu. Le premier amour est une barrière de protection incroyable, une protection pour ma vie. Deuxième point, la bonne conscience. Hébreux 13, 18 nous dit, « Priez pour nous car nous croyons avoir une bonne conscience. Nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience, voulant toute chose bien nous conduire. » Le Seigneur nous a créés avec une conscience. Il nous a donné la capacité de juger, la capacité de discerner entre le bien et le mal, entre ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. C'est ce baromètre intérieur implanté en chacun de nous par le Créateur. Et cela nous permet donc, comme je l'ai dit, de comparer ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Ça nous permet de comparer notre vie. Et l'apôtre Paul va vraiment mettre de l'importance en disant, « Chers amis, écoutez, il est absolument indispensable de garder une bonne conscience, de ne pas la perdre, mais de la garder précieusement. » Il va dire par exemple à Timothée, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, c'est que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Et il ajoute au verset 19, 1 Timothée 1, 19, « Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Ça veut dire que en perdant la bonne conscience, en lâchant la bonne conscience, en ayant une mauvaise conscience, en vivant avec une mauvaise conscience, je suis en danger. J'ai enlevé une barrière de sécurité de ma vie et je suis ainsi en danger. Mon territoire peut être envahi. La bonne conscience. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit vient habiter notre cœur, il réveille notre conscience. Ce qui était toléré autrefois dans ma vie sans Dieu, maintenant, je suis sensible et je dis non, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus tricher, mentir et faire un tas de choses. Car le Seigneur me donne une bonne conscience, une conscience éveillée et réveillée. David va faire l'expérience de cette conscience renouvelée et réveillée par le Saint-Esprit. Il nous est dit dans un moment de sa fuite de Saül, qui était le roi en place, mais qui était un mauvais roi. Et David fuyait devant Saül. Et un jour, il se retrouve dans une caverne. Eh bien, ils étaient cachés au fond de la caverne. Quand Saül arrive dans la caverne, il est seul dans la caverne parce qu'il avait un besoin particulier à faire. Vous pouvez imaginer. Et lorsqu'il est dans cette caverne, les gens derrière, les quelques amis de David disent, « Mais c'est l'occasion, venge-toi, tue-le !» Et David va s'approcher avec son couteau et il va lui couper à bout de son manteau. Et David, il nous est dit, le texte nous dit que son cœur battait très fort. Et il va dire tout de suite, « Je n'oserai jamais porter la main à loin de l'Éternel. » Pourtant, ce n'était plus loin de l'Éternel. Mais David disait, je ne toucherai pas, je ne ferai pas quelque chose de grave parce que ma conscience me l'interdit. Mais vous savez, même David avait besoin de se protéger et d'ériger cette barrière de protection qui était très haute à ce moment-là. À un autre moment, au moment où il commet l'adultère avec Bathsheba, il n'est plus convaincu d'avoir mal fait. Dieu a besoin que le prophète vienne vers lui pour lui raconter une histoire qui va le toucher, pour qu'il remette à flot cette barrière de protection qu'ils appellent la bonne conscience. Rien n'est acquis pour toujours. Si vous avez une conscience éveillée, gardez-la bien précieusement. Gardez-la, parce que si nous ne veillons pas sur nous-mêmes, nous pouvons, tout spirituel que nous sommes, nous pouvons perdre notre bonne conscience. David a été en danger à certains moments par rapport à cette bonne conscience. Il avait perdu cette sensibilité. Regardez maintenant, par une mauvaise conscience, nous perdons plusieurs choses. Car la bonne conscience protège la paix. Premièrement, la bonne conscience protège ta paix. Quelqu'un a dit ceci, écoutez cette phrase. La conscience ne t'empêche pas de commettre le péché, mais elle va t'empêcher d'en jouir. Le chrétien peut pécher, mais sa conscience va le lui reprocher. Il sait qu'il attriste le Saint-Esprit et ne trouvera aucune joie. Il finit par détester ce qu'il fait et il finit même par être dégoûté de lui-même. Donc la bonne conscience va protéger la paix. Ne perdez pas la paix, ne perdez jamais la paix du cœur. Par une bonne conscience, en faisant ce qui est juste, en n'allant pas au-delà de ce que votre conscience autorise, en n'allant pas au-delà des limites que Dieu vous pose, en n'allant pas au-delà de ce que Dieu dit dans sa parole, ne forcez jamais votre conscience. Amen. Ne forcez pas votre conscience. N'allez pas au-delà en enfreignant la barrière de protection érigée par une bonne conscience. Donc la bonne conscience vous protégera de la paix que vous avez. Deuxièmement, la bonne conscience protégera votre assurance. Paul va dire à Timothée, il faut que tu gardes une bonne conscience. Et il va dire lui-même aussi ceci, dans Acte 23, il a les yeux fixés sur le Sanhédrin, donc qui est un tribunal qui va le juger. Il dit, en regardant fixement ces gens dans le blanc des yeux, il va dire, je me suis conduit en toute bonne conscience jusqu'à ce jour devant Dieu. Et c'est pourquoi il avait de l'assurance. Voulez-vous avoir de l'assurance dans votre témoignage? Est-ce que vous pouvez regarder les gens dans le blanc des yeux ou est-ce que vous parlez les yeux baissés parce que votre conscience n'est pas tout à fait claire? Si vous avez de l'assurance, à cause de votre bonne conscience, vous aurez une autorité dans votre témoignage. Vous aurez une autorité. Ne perdez pas cela. La bonne conscience est une barrière de protection afin que nous ayons de l'assurance et de l'autorité, de l'impact et de la crédibilité de notre témoignage. Oui. Et troisièmement, la bonne conscience me protège d'aller de l'avant dans une voie de péché. C'est l'histoire d'un missionnaire que j'aimerais vous raconter. C'est une histoire authentique car ce missionnaire l'a écrit lui-même dans un livre de témoignage. Ce missionnaire était en Inde et il était au bord d'un des nombreux fleuves en Inde, dans une région où il n'y avait pas de chrétiens. Il était là et il priait beaucoup. Et il se retrouve dans un endroit qu'il aimait beaucoup, au bord de cette rivière justement, de ce fleuve assez large, tranquille. Il était là, il aimait le soir aller vraiment intercéder pour toute cette région où il a été appelé à travailler pour implanter l'œuvre chrétienne en Inde. Et alors qu'il est au bord de cette rivière, il fait les 100 pas et il prie, il intercède, il est avec Dieu et il intercède vraiment, il fait son ministère. Et voilà qu'une série de femmes viennent régulièrement le soir pour la lessive, etc. Et voilà qu'il remarque que lorsque les femmes ont terminé leur lessive, il y a plus tard encore vers la tombée de la nuit, juste avant, il y a une autre femme qui vient seule et qui se lave dans cette rivière. Et là, sa bonne conscience commence à fonctionner. Et il sent très vite qu'il ferait mieux d'aller prier ailleurs. On va dire comme ça les choses. Et bien sûr, il est très spirituel, il continue à prier et se concentre à nouveau. Et son regard est détourné vers cette femme qui, dans la pénombre, est en train de se laver. Alors il y a un grand combat qu'il commence à mener. Et alors qu'il sait très bien qu'il faudrait changer d'endroit, Il revient systématiquement au bord de cette rivière et tout en priant, il y a une espèce de petit compromis qui est là avec lui et il dit, mais c'était agréable ce que j'ai vu là. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est que cet homme, un jour, a franchi la limite de son cœur. Cette bonne conscience n'était plus une bonne conscience. Cette sensibilité au Saint-Esprit, là, il l'a mise de côté, il a fait un pas de plus. Et il s'est avancé dans l'eau ce soir-là où cette femme est de nouveau arrivée seule, au soir tombant, pour se laver. Eh bien, il s'est approché d'elle. Il est entré dans l'eau et lorsqu'il était à 1 mètre environ, cette femme s'est retournée. Elle était lépreuse. Son visage était défiguré. Alors que ce pasteur missionnaire aurait dû avoir une parole éventuellement. À cause du fait qu'il avait franchi cette barrière et qu'il avait perdu l'assurance et l'autorité, il n'a pas pu dire un seul mot, il n'a rien pu dire du tout. Il est retourné et dans la confusion et la repentance, il a reconnu qu'il avait vraiment joué avec le feu. Bien sûr, il n'est pas allé plus loin, mais cette femme qu'il commençait à convoiter secrètement était lépreuse. Et ça a été une marche en arrière. Et ce missionnaire le raconte, cette histoire, dans son livre de témoignages. Et il utilise cette image, cette expérience comme un avertissement. Frères et sœurs, si vous voulez aller plus loin avec Dieu, vous devez ériger vos barrières de protection autour de vous. Et cette barrière de protection s'appelle la bonne conscience. Je passe à la troisième barrière de protection qui s'appelle l'humilité. Nous connaissons tous ce verset qui nous dit « L'orgueil précède la chute ». Je ne vais pas tomber devant vous, mais si je franchis la barrière et que je peux tomber, c'est que l'orgueil me pousse à tomber dans le péché, dans la suffisance, dans la prétention, dans l'arrogance, dans 1000 choses et dans l'éloignement du Seigneur. Alors que l'humilité est une barrière que j'élève pour me protéger. Dans vos rapports mutuels, dit l'apôtre Paul, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'attitude d'humilité, le cœur d'humilité est une protection pour votre vie, mes amis. N'avez-vous pas vous-même vu tant de personnes qui, par leur arrogance, leur prétention et leur orgueil, sont tôt ou tard tombées et n'ont plus fait la volonté de Dieu, ont traversé cette barrière et sont tombées plus bas? L'orgueil est toujours un piège. Si l'orgueil a été un piège, même dans le ciel, pour Lucifer, pensez-vous que nous sommes plus forts que Lucifer? Nous sommes confrontés au même danger. L'humilité est une barrière de protection. Regardez, je vais vous lire un beau texte. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui, par humilité, ont accompli de grandes choses pour Dieu. Matthieu, en écrivant son évangile, ne cite son nom que 2 fois. Et chaque fois pour se décrire comme un simple collecteur de taxes. Lorsqu'il mentionne le nom des 12 apôtres, il se place en 8e position. Jean ne mentionne même pas son propre nom dans l'évangile. Les 20 fois où il nomme Jean, il s'agit de Jean-Baptiste, c'est pas lui. Quant à l'auteur, il préfère se cacher derrière l'expression « le disciple que Jésus aimait ». Luc écrivit 2 des livres les plus marquants du Nouveau Testament, l'Évangile de Luc et les Actes. Pourtant, il ne cite jamais son propre nom. Paul, l'écrivain le plus prolifique de la Bible, se traite lui-même d'insensé, 2 Corinthiens 12, 11. Il se considérait comme le moindre des apôtres, 1 Corinthiens 15, 9. 5 ans plus tard, il déclare être le moindre de tous les saints, Éphésiens 3, 8. Et dans l'une de ses dernières lettres, il parle de lui-même comme étant le pire des pécheurs, 1 Timothée 1, 15. Plus il avance en âge, moins il se considérait comme important. Le roi David n'écrivit aucun psaume glorifiant sa victoire sur Goliath. Par contre, il composa un psaume des plus poignants pour exposer à tous ce que le péché avait produit dans sa liaison avec Bathsheba, le psaume 51. Le message pour tous est celui-ci. Apprenons l'humilité. Apprenons l'humilité. L'humble comprend que tout est grâce. L'humble comprend qu'il est dépendant de Dieu, que sans lui il ne peut rien faire, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. L'orgueilleux dit, je peux par moi-même, je suis indépendant, je suis soumis à rien ni à personne. Mais celui qui est orgueilleux et qui dit, je ne dépends de personne, je peux m'en sortir moi-même, je n'ai pas besoin de me soumettre, il donne un droit à l'ennemi qui va lui donner une peau de banane et il va se planter. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève. Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Le premier amour, la bonne conscience, l'humilité et la dernière barrière de protection qui m'entoure dans mon cœur pour ne pas tomber s'appelle « J'ai besoin que l'on prie pour moi ». Écoutez ces textes, et je crois que je les ai marqués, Romains 15, 30. « Je vous exhorte à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » 2 Corinthiens 1, 10. « Nous espérons qu'il vous délivrera encore, vous-même aussi, nous assistant de vos prières. » Je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance du Saint-Esprit. Et il y a d'autres textes encore, je les ajoute. « Priez pour nous, Colossiens 4, 3. » 1 Thessaloniciens 5, 25, frères, priez pour nous. 2 Thessaloniciens 3, 1, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande. Éphésiens 6, 18, veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints et priez pour moi. Si l'apôtre Paul avait tant besoin que l'on prie pour lui et qu'il le demande courageusement et sans façon, vous pouvez demander que l'on prie pour vous. Car la prière est une barrière de protection. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais terminer mon message maintenant dans la prière justement. Paul sait qu'il ne peut pas se passer de la prière. Vous avez une église, alléluia, une église qui est là pour vous. Vous avez des serviteurs qui sont là aussi pour vous. Et vous pouvez demander la prière. La prière est une protection pour votre vie. Combien de fois n'ai-je pas été gardé parce que Dieu a mis sur le cœur de quelqu'un que l'on prie pour moi? Un pasteur racontait justement cette expérience où il était en train, dans ses vacances, il avait pris un petit bateau, il était en train de ramer avec un ami, et tout à coup, par des vents contraires et un mauvais temps qui arrive, il n'arrivait plus à revenir au bord. Il dit, Seigneur, alors que chez lui, à plusieurs milliers de kilomètres, sa maman était dans la cuisine, en train de faire le ménage, elle entend dans son cœur la voix de son fils qui crie, maman, et elle a compris qu'elle devait prier pour lui à ce moment-là. Et il s'en est sorti. Il s'en est sorti. Dieu peut vous demander de prier pour quelqu'un. Vous demandez la prière, mais j'aimerais aussi retourner la chose en disant, mettez-vous à disposition pour prier pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin de votre prière. Il y a des gens qui attendent votre prière. Est-ce que le Saint-Esprit peut venir vous chercher le jour, la nuit, le soir, le matin pour vous dire, j'ai besoin que tu pries pour cette personne maintenant. Je veux t'utiliser toi pour que tu érèges une barrière de protection. Cette personne est en danger. Elle a besoin de ta prière maintenant. Qui veut obéir à ça ce soir? Alléluia. Père Céleste, je te remercie de ce que tu es notre protection. Seigneur, tu es vraiment notre bouclier, notre cuirasse et notre forteresse. Notre abri, Seigneur, et nous sommes sous tes plumes. Nous sommes bien gardés. Mais ce soir, nous comprenons que nous devons également nous protéger nous-mêmes. Seigneur, je te prie que ce soir, Seigneur, nous puissions revenir et connaître le premier amour afin que ce premier amour soit une protection totale dans le nom de Jésus contre toutes les séductions et contre tous les compromis. Seigneur, nous ne voulons pas ni regarder à droite ni à gauche, mais le premier amour, Seigneur, est une protection pour rester au centre de l'alliance avec toi. Seigneur, je te prie maintenant que nous ayons tous et que nous puissions tous retrouver une bonne conscience. Et là, notre conscience nous reproche des choses, que nous puissions régler la chose, que nous puissions avoir le courage de mettre de l'ordre dans notre vie. Et Seigneur, là où nous sommes devenus orgueilleux et suffisants, donne-nous, Seigneur, de l'humilité, afin que nous ne fassions pas comme Lucifer qui tombait du ciel, de la présence de Dieu, à cause de son orgueil. Et que, Seigneur, nous soyons ce soir aussi de ceux qui prient pour les autres. Car la prière est puissante, une protection merveilleuse et puissante. Alléluia. Je prie pour l'Église ce soir. Je prie pour chacun de nous dans le nom de Jésus. Seigneur, que ces barrières de protection soient élevées dans nos vies, qu'elles subsistent à toujours, Seigneur, qu'elles soient toujours là comme une réalité, comme une force, comme, Seigneur, un avertissement aussi, Seigneur, de ne pas, Seigneur, mener notre vie chrétienne d'engager avec Jésus à la légère, mais d'être sérieux, Seigneur. C'est ce que nous te demandons par le Saint-Esprit. Aide-nous ce soir et remplis-nous du Saint-Esprit dans le nom merveilleux de Jésus. Amen.